octobre 2013, votre magazine Okapisport aura 10 ans. Vos critiques, remarques, suggestions et attentes sont les bienvenues. Écrivez-nous à l'adresse email suivante sport10ans@radiookapi.net ou déposez votre courrier au bureau de la Monusco le plus proche de chez vous. Les meilleures critiques, remarques, suggestions, anecdotes et faits marquants d'Okapi Sport selon vous seront primés. La passion du sport, c'est Okapi Sport.
Bon nombre de personnes déplacées ont du mal à réintégrer leur milieu, une fois retournées ou rapatriées. Certaines d'entre elles ont tout perdu et ne savent plus comment faire pour trouver un logement, pour scolariser les enfants et même avoir de quoi survivre. Alors c'est tout un problème. Comment alors assurer la réinsertion sociale des personnes retournées ou rapatriées dans des bonnes conditions? Alors pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui nos deux invités, Dr Freddy Mbakata et Dr Kapita. Et ils sont tous de l'ONG ADSSE, qu'on appelle l'Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement, une ONG partenaire au OACR. Alors, on commence avec vous, Dr Freddy. Comment, dans quelles conditions doit se faire le retour des... Commençons d'abord par les déplacés internes. Comment les aider à rentrer dans leur milieu d'origine et à reprendre leur vie?
Bien, merci. Avant de pouvoir parler du retour, il faut savoir d'abord quelles sont les causes qui ont fait que ces personnes soient parties en déplacement et voilà. Quitter leur village ou leur milieu d'origine pour fuir, pour chercher la paix ailleurs. Ce sont ces causes-là qu'on doit rechercher.
Quelles sont ces causes d'abord?
Ces causes sont multiples. Il peut s'agir seulement de conflits armés. Les gens fuient parce qu'en restant, ils s'exposent à la mort. Il peut s'agir aussi de conflits d'ordre religieux ou ethnique, ou simplement certaines calamités telles que la sécheresse, les inondations et autres. Ça, c'est quand il
s'agit de déplacement. Ça peut occasionner un déplacement massif.
Ah, bien sûr,
la population.
Bien entendu. Si là où vous habitez, il y a une très très grande inondation, ou c'est la famine, ou c'est une très grande sécheresse, vous ne pouvez plus vivre, vous cherchez refuge dans un milieu ou qui vous procure les conditions les meilleures.
Généralement, dans notre pays, c'est à cause des conflits armés, surtout dans la partie est du pays.
Et essentiellement, oui.
Les gens se déplacent pour aller trouver refuge ailleurs, mais dès que le moment du retour arrive, parce que la guerre est terminée, maintenant il faut rentrer dans son milieu d'origine. Alors comment cela doit se faire, ce retour, et comment organiser cela pour que les gens rentrent quand même dans des bonnes conditions et reprennent leur vie?
Oui, le retour, comme j'ai dit, si les conditions qui ont prévalu à leur départ ont pris fin, la guerre par exemple, si la paix est revenue, il est tout à fait normal qu'on puisse penser au retour, parce que quand ces populations se déplacent, ils viennent dans un nouveau milieu. Vous comprenez qu'ils posent aussi des problèmes socio-économiques. Ils peuvent être beaucoup plus nombreux que la population locale. Okay. Et donc, si la peur venait dans leur milieu d'origine, il est tout à fait normal qu'on puisse penser au retour. Mais il y a des préalables pour ce retour-là. Ici, nous parlons du retour de déplacés internes. Nous ne parlons pas encore de ceux qui ont traversé les frontières de notre pays pour chercher refuge à l'étranger. En ce moment-là, le déplacement doit être organiser le retour, si vous voulez. Il y a des organismes du système des Nations Unies qui ont, dans leur mandat, ce problème-là de prendre en charge les personnes déplacées.
Les HR notamment,
les programmes alimentaires aussi, qui intervient parce qu'il y a des aspects. Donc, dans ce moment-là, si toutes les conditions sont réunies, les HR, les autorités locales ont fait une évaluation et sont arrivés à la conclusion que la paix est revenue, que les conditions qui ont prévalu à leur départ ont disparu. En ce moment-là, on organise le retour. La première chose qu'on doit faire, c'est la sensibilisation. Parce qu'il faudra informer les gens que les conditions qui ont poussé à votre départ ont fini.
Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous.
On les sensibilise. Parce que le retour doit se faire sur une notion principale qui est le volontariat. Il ne faudra jamais, jamais pousser quelqu'un à ce qu'il puisse rentrer dans son milieu de force. Parce qu'il se pourrait que dans les nouveaux milieux où il est parti, il a trouvé les conditions les meilleures et les populations autochtones l'ont accepté. Il peut décider de rester. Donc, c'est sur base de volontariat que ce retour doit se faire. Donc, si les autorités politiques et les organismes des Nations Unies qui ont dans leur mandat ce pouvoir d'aider les retournés, S'il arrive à la conclusion que les conditions disparues, on organise le retour. Comment le retour peut-il se faire? Quelles sont les distances que ces personnes ont parcourues? Et si c'est une distance proche, on peut organiser le retour rien qu'en marchant. On crée ce qu'on appelle des way stations sur la route, là où les personnes doivent passer de telle distance à telle distance. Mmh. On crée des postes de way stations où, en arrivant, ils trouvent les organismes partenaires, par exemple l'IACER, qui attendraient des personnes qui vont marcher pour rentrer chez eux. Et à des points bien déterminés de way stations, on leur donne de l'eau, on leur donne des biscuits énergétiques, par exemple. Mmh. Si la distance n'est pas grande, on peut se limiter de l'eau, des biscuits énergétiques. Et puis, on détecte aussi ceux qui sont fatigués.
Ils peuvent passer la nuit là-bas, non?
Oui, si c'est la possible, distance est très grande. Ouais. S'ils doivent faire, par exemple, 30, 40 ou 50 kilomètres ou au-delà, ils peuvent passer la nuit. Alors, si on prévoit que les retournés vont passer la nuit à un endroit bien déterminé, à cet endroit-là, on va préparer aussi les conditions d'accueil. Il faut construire des abris où ils vont passer la nuit. Il faut
dans ces way stations.
Dans ces way stations. Mmh. Il faut leur donner, par exemple, des couvertures pour se protéger pendant qu'ils passeront la nuit. Voilà. Et puis aussi, dans ces way stations, on peut avoir aussi des petites équipes médicales qui vont faire le screening médical. Quelqu'un au point du départ, il peut être bien portant, mais en marchant, s'il est une personne d'une troisième âge, il peut être fatigué, il peut avoir des pieds enflés ou quoi là. On peut trouver aussi au lieu de way stations.
Station, ce sont des endroits aménagés par les partenaires.
Oui, entre les distances du départ et au lieu de retour. Mmh.
C'est un lieu de repos où on peut se ressourcer, on peut trouver de quoi manger.
Exactement.
Avant de poursuivre. Docteur Capita, vous êtes le chef de projet à l'ONG ADSSE, une ONG partenaire au HCR. Dites-nous, pouvez-vous nous présenter votre ONG? Qu'est-ce que vous faites exactement en collaboration avec les HCR?
Ben, d'abord, je m'avais vous rappelé que c'est le docteur Capica, pas Capita.
Capica, puis, voilà, oui. Merci.
Et puis ensuite, c'est la même ONG, c'est pas une ONG différente de ce que notre directeur général a dit. Mm. Ben, notre ONG, dans les pays, il est d'abord présent presque dans toutes les provinces. Nous sommes à l'est, dans le nord Kivu, le sud Kivu, en province orientale. En province orientale, nous sommes plus précisément à Bunia, nous sommes à Dungu, nous sommes à Ango et nous sommes à Mambasa. Et nous sommes présents aussi dans la province de l'Équateur.
Et vous travaillez avec le HCR dans le cadre de...
Nous sommes avec le HCR principalement, mais nous sommes aussi avec le PAM, nous sommes aussi avec l'UNICEF, avec le PNUD, nous sommes avec le PULFAN. Et dans le passé, nous avons été avec beaucoup d'autres organisations, notamment la communauté européenne.
Tout ça pour aider, par exemple, les gens à rentrer chez eux.
Aussi.
Les réfugiés à rentrer chez eux.
Oui, dans l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire où ceux qui sont des déplacés internes, c'était le cas beaucoup plus en Ituri, où ceux qui retournent, par exemple, à l'Équateur, c'est nos compatriotes qui étaient partis au Congo-Brazzaville, qui avaient fui la guerre et qui sont en train de rentrer. Donc, ça dépend dans quel contexte on se situe.
D'accord. Et comment parlez-nous, par exemple, du dernier cas en date où vous êtes intervenu pour aider les gens à rentrer chez eux dans de bonnes conditions?
Ben, nous le faisons encore. Nous sommes à l'Équateur avec le HCR, en train d'aider nos compatriotes qui étaient partis, qui avaient traversé la frontière, qui étaient au Congo-Brazzaville, et qui sont en train de revenir. Ils le font depuis le mois de mai de l'année.
Qui avaient quitté la province de l'Équateur?
Oui.
Quelle localité exactement?
Ah, ils sont partis de partout, hein. Ils sont partis dans les districts du sud au Bangui, du nord au Bangui, ils sont partis même de l'Équateur, district de l'Équateur, plus précisément vers Buburu, Bomongo, ils sont partis de Imese, de Dongo, ils sont partis de Libengue, de Guémena, ils sont de Bujala, ils sont partis de partout, même de Zongo.
Pour quel motif?
Il y a eu le conflit que nous déplorons tous et qui a opposé les Agnellés, vous avez sans doute entendu parler, hein, le Mosaya et le Lobala et tout ça, il y a eu ces conflits internes malheureusement.
Et ces conflits ont causé un déplacement massif des populations.
Tout à fait.
Et ces gens sont allés trouver refuge en
Congo-Brazzaville. Et maintenant, nous sommes en train de les aider à rentrer.
Et vous estimez, ils sont à peu près au nombre de combien?
Bon, on a parlé de 120 000 dans la globalité, qui avaient traversé la frontière. Et maintenant, les HCR est en train de les rapatrier. Bon, donc, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une cérémonie que tout le monde connaît la semaine passée. C'était le 3, où on a rapatrié les 101e réfugiés. qui est revenu, donc on est au-delà des 100.
Vous êtes déjà au-delà des 100.
De 100 000, oui.
Voilà. Et Dr. Freddy a dit tout à l'heure que ça doit se faire sur base du volontariat.
Tout à fait.
Est-ce que vous n'avez pas forcé certaines personnes?
Jamais. Non, pas du tout.
Ou il y a une pression de l'autre côté, vous devez rentrer chez vous?
Non, pas du tout. C'est même qui ont manifesté le désir de rentrer. Et il y a eu une réunion tripartite avant ça, qui a réuni le pays, dont le Congo, le pays hôte, le Congo-Brazzaville et la RDC, plus le HR. Et tout ça a été bien organisé, les gens se sont attendus, il y a eu des manifestations, des désirs de rentrer, et puis on a procédé au rapatriement.
Alors ça c'est un cas de rapatriement, mais est-ce qu'il y a eu un cas de déplacement interne où vous êtes intervenu pour amener les gens chez eux?
Tout à fait. Bon, nous, on n'est pas intervenu pour amener les gens chez eux. Nous sommes intervenus dans la sensibilisation.
Okay.
Et nous sommes intervenus dans la réintégration de ceux qui rentraient chez eux. Mmh. En Équateur, en 2010, c'est ce que nous avons fait avec nos frères. Avec cette guerre, à part ceux qui ont traversé les frontières, il y en a qui ont fui d'une localité à l'autre. Et c'est là que nous avons aidé à rentrer chez eux, à créer l'environnement pour le bon retour chez eux.
D'accord. Comment aider les retournés à réintégrer leur milieu d'origine? Nous avons, les auditeurs vous écoutent et ils veulent poser des questions dans cette émission, Dr. Freddy. Nous avons en ligne Ogi Bendelo qui nous appelle des Kikwit dans la province du Mandundu. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment aider les retournés à réintégrer leur milieu d'origine? Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel Kachama, je salue aussi notre invité. Et je salue aussi tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce moment.
Oui, quelle est votre question?
Merci, Julie, de m'avoir accordé la parole. Vous savez, Julie, j'ai bien suivi tout ce que notre invité disait. À l'époque de nos ancêtres...
Nos invités, nous avons deux invités. Hein.
Bon, merci, et je les salue tous.
Oui, allez-y.
À l'époque de nos ancêtres, Julie, d'ailleurs, cachement, les causes du déplacement de la population, c'est principalement la famine et l'épidémie. Donc, lorsqu'il y a une grande famine, la population se déplace. Quand il y a une épidémie, la mort surgit souvent. Cette population-là se déplace de l'ère milieu ancien. Et aujourd'hui, nous avons constaté, surtout dans notre pays, à l'est, surtout, c'est la guerre qui ravage, qui fait que la population puisse se déplacer. L'invité a parlé de la sensibilisation. C'est pourquoi je voulais leur poser cette question. Comment est-ce qu'ils doivent sensibiliser la population qui est beaucoup déplacée par la guerre? Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là. Et ils ont même peur à se rendre à leur lieu ancien. Et je ne sais pas, comment est-ce que la population a peur de la guerre et cette ONG, comment est-ce qu'elles pourront élaborer cette situation-là pour que la population puisse retourner? C'est ce que je voulais savoir, monsieur.
Eh bien, merci. Docteur Freddy.
Oui, si notre interlocuteur de Kikwit a très bien suivi, on a dit que le retour se faisait sur base volontariaire. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit aux réfugiés, vous avez quitté tel milieu à cause de la guerre, et vous avez des preuves maintenant qu'il y a eu, par exemple, une entente sur le plan national, les partis en conflit se sont convenus, ont signé des accords, la guerre a cessé, la paix est retournée. Bon, l'individu lui-même pourra faire son propre examen de conscience, hein, décider en conséquence.
Nous, alors, il a donné un cas, il dit, la personne, il y a des déplacements multiples.
Oui.
On était ici, la guerre, et puis la guerre arrive là-bas, il faut encore se déplacer 2, 3, 4 fois. Est-ce que cette personne, comment la convaincre, la sensibiliser pour retourner dans son milieu d'origine? Mais, parce qu'elle n'a plus confiance.
Je l'ai dit. Pourquoi le volontariat? Parce que l'individu qui s'est déplacé peut être accepté par la nouvelle communauté d'accueil. Il peut décider librement que moi, désormais, je reste ici pour autant
je
ne rentre plus.
Oui.
Donc, c'est cela, c'est ce principe de volontariat. On ne force pas les gens en disant la guerre est finie, ou si on vous pousse à rentrer de force. Non, c'est volontaire. Donc, il y a des gens qui acceptent. Parce que vous savez, avec les déplacements massifs, si vous ne rentrez pas, vous causez un problème. Vous vous retrouvez dans un autre groupement. Il y a des problèmes coutumiers. coutumiers qui peuvent se poser.
Problème de terre.
Des terres, peut-être que vous n'aurez pas de terre pour cultiver ou quoi. Et puis, quel est l'accueil qu'on vous réserve par la population autochtone. Ce sont toutes ces conditions. Donc, en faisant la sensibilisation, on le montre que la guerre a pris fin. Et pendant la sensibilisation, on peut envoyer aussi une équipe qui peut aller en expédition, si vous voulez. Et on prend quelques individus, venez voir votre milieu d'origine, toutes les conditions ont fini, les conditions qui ont fait que vous puissiez fuir, maintenant vous pouvez rentrer. Et à part la sensibilisation...
Et la sensibilisation s'est faite sur base de quel support? Vous utilisez les mégaphones
On utilise tous les moyens. Ouais. On peut le regrouper, parle à masse, même la radio, Kabi. S'ils sont dans des milieux urbains, on peut utiliser la presse écrite, on peut passer de maison à maison, on peut utiliser des mégaphones. Donc, on utilise tous les moyens disponibles pour le convaincre. Alors, on peut envoyer une équipe qui va aller en exploration.
Souvent, dans les camps, ils sont aussi organisés, ils ont des chefs de...
Voilà.
Oui. Dans les camps, vous prenez les chefs pour aller...
S'ils sont dans des camps, c'est beaucoup plus facile de faire la sensibilisation.
Okay.
Mais ce n'est pas tous les déplacés qui sont obligatoirement dans des camps. Ils peuvent être dans des familles d'accueil.
Et quel est le contenu du message que vous faites passer?
Le contenu du message, nous leur disons, on ne peut jamais être mieux que chez soi. Là où vous étiez, vous aviez votre lopin de terre, c'est chez vous, c'est là où vous êtes né, c'est là où vous avez grandi. Maintenant, les conditions qui ont fait que vous puissiez fuir ont pris fin. Revenez. Voilà ce qu'on propose pour qu'en rentrant, vous puissiez trouver de meilleures conditions.
Alors, docteur Kapikal, la personne qui doit rentrer n'est pas sûre. Peut-être que sa maison a été détruite lors des conflits. Peut-être que sa terre, là où il cultivait son champ, la terre a été occupée. Maintenant, il y a toutes ces incertitudes. Comment maintenant, lorsqu'elle va rentrer, comment ça va se passer?
Bon, rentrer la maison détruite, ça, il y a un problème, un programme de réintégration qui est souvent mis en place par nos partenaires. Au fait, c'est un programme qui devait être réalisé par le gouvernement congolais lui-même, mais il est aidé par le partenaire, surtout du système des Nations Unies et des ONG internationales, parce qu'il s'agit de déplacés internes.
L'UN Habitat aussi est impliqué?
Oui, tout à fait. Alors, ils s'impliquent et ils construisent, ils ont fait la réintégration, on donne des kits de construction ou on construit des cases en matériaux locaux pour les déplacés internes. C'est ce qui se fait, par exemple, actuellement en province orientale. Nous sommes en programme avec les HR et le Pool France. On est en train de construire des cases pour tous ceux qui avaient fui et qui rentrent chez eux.
Ceux qui avaient fui, qui se trouvaient où exactement?
Bon, ils étaient éparpillés d'une localité à l'autre. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont vers Dungu, qui avaient fui la guerre, qui sont partis, qui sont venus beaucoup plus dans le Bazuélé et tout ça, et qui retournent chez eux. Donc, quand ils retournent, ils trouvent qu'on les a aidés à construire.
D'abord, vous commencez par les recenser.
Tout à fait. Il y a un travail qui est fait en amont. Il y a beaucoup, on sensibilise, on les recense. On connaît qui est où et qui fait quoi et qui est
déplacé. Et chacun vous dit, par exemple, j'ai ma maison à tel endroit, vous allez vérifier si la maison est toujours là ou pas.
Bon, c'est comme l'a dit le DG, il rentre, il y a toujours un groupe qui rentre pour aller voir si leurs maisons sont encore là ou pas. Et généralement, ceux qui sont forts, on va seulement les aider à rentrer, ils peuvent se construire une case eux-mêmes. Mais c'est beaucoup plus pour les vulnérables, les extrêmes vulnérables. Les gens qui sont incapables de se construire une maison, c'est là qu'ils sont aidés. Donc, les gens qui se déplacent, c'est qui là où ils sont, nous beaucoup plus, les messages que nous amenons, c'est des messages qui recopient ce qui est déjà fait, comme a dit le DG, si le gouvernement a arrangé déjà des conditions sont paisibles, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de calamités qui les ont fait fuir, et nous disons, bah, écoutez, là-bas, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, vous pouvez retourner. Et donc, le problème ne se pose pas du tout.
D'accord. Nous avons en ligne Arthur Ikanga, il nous appelle de Mbandaka. Arthur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Je salue les invités. Hein.
Ok. Votre question?
Oui, je voulais savoir, parce que j'ai suivi dans la présentation de Dr. Kapika qu'ils étaient en partenariat avec le Pool Fund. Je voulais savoir c'est quoi le Pool Fund. Et puis, est-ce que, parce qu'il a dit qu'ils sont à l'Équateur, est-ce qu'à l'Équateur, ils ont des activités avec le Pool Fund, exactement dans quel milieu?
Merci. Aimé Minagou nous appelle de Kindu, au Maniema. Bonjour, Aimé.
Non, c'est depuis Siro.
Depuis Siro, merci. Aimé, on vous écoute.
Ok, ça va. J'ai juste une petite question. Je voulais savoir, par rapport au retour des déplacés dans leur milieu d'origine, est-ce que si les déplacés font les rentrer là où ils sont venus, est-ce que ce retour sera supporté? Non, parce qu'il y a des ceux-là qui n'ont pas des moyens pour se retourner chez eux.
Merci. Est-ce que ce retour-là sera supporté? La première question d'Arthur depuis Mbandaka, docteur Kapika, vous avez parlé de votre collaboration avec Poulfound, il veut savoir c'est quoi, est-ce que vous intervenez dans quel milieu dans la province de l'Équateur?
Bon, le Poulfound, c'est le fonds des Nations Unies qui est mis à la disposition de notre pays pour nous aider à réaliser tel ou tel autre projet. Il y a des fonds qui sont gérés donc par le PNUD. Hein, c'est connu, et nous quand nous soumissionnons, il y a toute une compétition hein, pour la soumission, il y a toute une procédure. Alors pour revenir à sa question, nous, Arthur, nous sommes à l'Équateur avec le Poulfound. Nous sommes plus précisément en Mbandaka, dans le district de l'Équateur. Et là, nous intervenons auprès on est intervenu au début de l'année, hein, là, plutôt à la fin de l'année passée, et maintenant nous intervenons encore cette année pour résoudre le problème exactement de nos compatriotes qui étaient revenus, c'était le cas, pardon, donc cette année nous intervenons auprès de retournés spontanés. Là, donc, c'est la nuance qu'il faut...
C'est quoi un retourné spontané ici?
Bon, rapatrié spontané, pardon.
C'est rapatrié. Qu'est-ce que cela veut dire?
Notre DJ a voulu expliquer un peu au début. Bon, okay. Il n'a pas pu, mais c'est quand nous parlons de retourner, beaucoup plus c'est les déplacés internes. Ils sont retournés. Mais quand il s'agit de ceux qui ont traversé les frontières, qui reviennent, on parle beaucoup plus des rapatriés.
Okay.
Alors, de ceux qui avaient fui la guerre, nos compatriotes qui avaient fui la guerre, il y a eu ce qu'on appelait retournés spontanés, les gens qui sont rentrés d'eux-mêmes, sans attendre que les organismes des nations, les HCR organisent le retour volontaire. Ils se sont rapatriés eux-mêmes. De ceux-là qui se sont rapatriés, il y en a à Libengue et qui n'avaient pas été assistés. Et le Poulfound a mis des fonds à notre disposition pour assister, ils étaient à peu près 12 000, assister nos compatriotes-là qui étaient dans le territoire de Libengue, dans les NFI. Donc on leur distribue uniquement des NFI.
D'ailleurs, oui, docteur Freddy.
On peut faire aussi un complément à l'intention de notre ami Arthur de Mbandaka. Oui. Nous avons un bureau à Mbandaka qui est localisé près du bureau d'IACR. Et le chef de notre bureau là-bas, c'est Flavien Nzuanga, il peut aller le voir. Et nous avons déjà mis en place deux projets de Poulfound. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place le troisième projet de Poulfound. Donc, il pourra avoir des détails supplémentaires.
Les informations là, sur place en Mbandaka. Ah, oui. Alors, Aimé a dit, le retour, ça demande des moyens. Oui. Il faut des kits de réinsertion. Alors, comment vous organisez tout ça?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il y a des préalables. Hein. On se réunit, si c'est en interne, si c'est un retour de déplacés interne, le gouvernement, avec certaines agences du système des Nations Unies ou les autres ONG, s'organise, demande l'aide. L'État peut mettre des moyens pour arranger les routes, tout comme l'ACER qui a ce mandat, tout comme les autres bailleurs de fonds, on peut arranger les ponts, on peut arranger les routes et sur les lieux de départ avec les partenaires opérationnels de ces organismes tels que la DCC, comme il a dit, nous construisons actuellement plus de 1000 cases vers Dungu en province orientale, tout comme à Mambasa. Nous sommes en train de construire aussi des abris pour ces gens-là qui rentrent.
Là, il faut que l'État vous donne d'abord une terre où vous allez aménager
ces cases. Oui, on le fait pas seul, on est avec les autorités locales.
Hein,
les autorités locales. Donc on les reconstruit. Et aussi, comme en guise d'appât, il y a des projets qui sont adressés à l'intention de toute la communauté. Par exemple, vers Mambasa, pour attirer les gens à rentrer, on va construire des écoles. Surtout, c'est l'UNICEF qui intervient dans ce cadre-là. On construit des écoles, on peut construire aussi
marchés,
des centres culturels. Actuellement,
centres de santé.
Ou même de centres de santé de maternité. Mmh. Dans l'Itouri, nous avons conçu des centres de maternité à Mandro Kwampara avec le fonds du PNUD. Mmh. Et actuellement, on a conçu un grand cercle culturel qu'on est en train de construire à Mongualou, qui va pouvoir être inauguré d'ici peu, se construit voilà. par l'ADES avec le fonds du PNUD. C'est-à-dire que l'individu est aidé, le retour peut se faire par véhicule, il peut se faire à pied, on le supporte, il y a des ways
ou par avion.
Tout comme par avion, si la distance est très grande.
Mais ça, ça demande beaucoup de moyens, docteur.
C'est très coûteux, c'est très coûteux. À l'époque, quand il y a eu le programme de Conader, là, on a ciblé les milices qui étaient armées. Mmh. On les rapatriait aussi. Nous avons pris part aussi dans ce projet-là. Et il y a des gens qui, du Bas-Congo qui se sont retrouvés en Ituri, qui partaient quand, pour le retourner, qui partaient de l'Ituri jusqu'à Kinshasa et puis le Bas-Congo par avion. C'est très coûteux, comme
c'est très coûteux. Oui, on a deux autres auditeurs en ligne. Dieudonné Touloumé nous appelle de Kananga et Jean-Pierre Kayembe de Kinshasa. Dieudonné, bonjour.
Monsieur Jody, et bonjour aussi à nos invités.
Oui, quelle est votre question?
D'accord, merci beaucoup de la parole, monsieur Jody. Ce sujet est trop intéressant par rapport à la situation que les habitants de l'Est sont en train de vivre. Alors, j'ai une petite question à poser à nos invités.
Oui.
Ok. Mmh. Oui. Notre invité a dit que le retour des déplacés dépend du principe de volontariat de ce dernier. Alors, quelle peut être la réaction de la population autochtone au cas où les déplacés ont rendu les conditions de vie défavorables et qu'ils n'ont pas ce principe de volontariat? Merci beaucoup.
Non, reprenez un peu votre question, Dieudonné. Vous dites...
Oui, j'ai dit ceci.
Oui.
L'invité a dit que le retour des déplacés dépend du principe de volontariat de ce dernier.
Ok.
Alors, laquelle peut être la réaction au cas où les déplacés ont rendu les conditions de vie défavorables et qu'ils n'ont pas ce principe de rentrer, de volontariat qui peuvent les aider à rentrer chez eux? C'est ça ma question, merci.
Merci bien. Jean-Pierre Kayembe, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, le journal, monsieur le journal. Bonjour aux invités.
On vous écoute.
Oui, je suis en train de saluer le travail qu'abattent les organismes internationaux et humanitaires, et aussi les organismes qui sont en train d'abattre le travail dans ce sens. Mais je suis en train de m'indigner un tout petit peu dans le sens que les organismes abattent le travail toujours en aval, dans le sens que c'est quand il y a des déplacés, comment ils interviennent. C'est un travail qu'il faut féliciter. Mais qu'est-ce que font ces organismes pour éviter? Parce qu'en médecine, on dit, pour combattre un phénomène, il faudra chercher ses causes. Alors, il n'y a pas il moyen de pouvoir que ces gens puissent commencer beaucoup plus à travailler pour éviter ce qui est en train d'engendrer les déplacements. Par exemple, les conflits interethniques, par exemple, la guerre à l'Est. Je pense très bien que si ces organismes participaient aussi pour essayer d'éviter ce qui entraîne les déplacements, ce serait une chose, quelque chose de très important.
Oui, Jean-Pierre, vous voulez dire, vous demandez à ces organismes de travailler aussi dans la prévention des conflits qui occasionnent les déplacements massifs des populations. Merci. Docteur Freddy, pour la question des Dieudonné de Kananga, il parle du principe de volontariat, mais si les déplacés ont rendu les conditions de vie difficiles dans les milieux d'accueil, alors qu'ils veulent même plus rentrer. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, il a tout à fait raison. C'est une question intéressante et importante. Souvent, on a constaté cela, effectivement. Je vous donne l'exemple de nos compatriotes qui sont partis de l'Équateur pour trouver refuge en République du Congo. Mmh. La population de la RD congolaise qui est partie en refuge était beaucoup plus nombreuse que la population autochtone. Et ça posait un problème économique. Vous savez que la population autochtone était habituée à avoir une certaine quantité de vivres qui n'était là que pour eux.
Ça peut occasionner la hausse des prix des denrées alimentaires.
Le marché local a été très, 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 très perturbé. Mmh. Et dans des pareils cas, qu'est-ce qui arrive?
Il semble que même l'environnement est perturbé. Il faut
exactement,
couper des arbres,
l'environnement en périt en grande partie. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas d'espèce? Le pays hôte fait pression. pour que les conditions qui ont prévalu à ce retour puissent être vite effacées dans les pays du départ.
Okay.
Dans le cas d'espèce, à plusieurs reprises, la République du Congo avait demandé à la RDC que la RDC puisse tout faire pour que les réfugiés puissent rentrer. Eh bien, on ne rentre pas comme ça. C'est comme il a très bien dit, mon collègue, il y a des préalables. Il faut d'abord une réunion tripartite. Les pays hôtes, les pays d'origine des réfugiés et les ACR. Hein. On fait des réunions, on se rend compte que les conditions ont disparu et puis on organise les retours. La question qu'il pose, elle est vraiment pertinente. Nous l'avons connue aussi avec les réfugiés rwandais à l'est de notre pays. Mmh. Il fut un moment quand notre pays, quand notre gouvernement dirigé à l'époque par son excellence M. Kengo Adondo a vu que les réfugiés rwandais nous créaient beaucoup de problèmes, on a organisé un rapatriement forcé pendant 2 ou 3 jours. On a pris de force les rapatriés.
Là, le principe du volontariat
était brisé. Et le monde entier s'était levé. Les Nations Unies se sont levées pour dire au Congo, Zaïre à l'époque, que vous ne pouvez pas agir ainsi, et on a stoppé ce problème après 2 jours. Donc le problème qu'il pose, il est réel, mais on ne peut le résoudre que dans les dialogues. Il faut que toutes les parties se rencontrent et qu'on aide les pays d'origine des réfugiés pour que les conditions qui ont fait qu'ils puissent fuir soient complètement disparues, afin qu'on puisse organiser les rapatriements.
Ça peut prendre du temps. Hein?
Ça peut prendre du temps, mais il y a des réfugiés rwandais qui sont en Tanzanie, qui sont partis depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ils s'y trouvent encore. Ils sont toujours là. Et dans des cas pareils, s'ils font longtemps, parfois on s'arrange pour que ces réfugiés puissent acquérir, je crois, la nationalité du pays d'accueil. Si vous prenez notre cas, République démocratique du Congo, il y a des réfugiés angolais qui sont venus de Belgrade, qui sont chez nous.
Ils sont
venus de Congolais. Donc, vous voyez,
ils se sont intégrés.
Voilà.
Alors, avant de répondre à Jean-Pierre de Kinshasa, docteur Kapika, on va accueillir Dieudonné Sita, qui nous appelle aussi de Kinshasa. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question?
Je remercie d'abord l'invité pour ces initiatives qu'ils ont prises. Maintenant, je voulais poser ma question de savoir quelles sont les mesures qu'ils prennent sur la personne qui s'est déplacée à cause de la guerre. Et il prend la personne pour la retourner dans son milieu. Et si la personne soit habitée au même problème, quelles sont les mesures qu'ils prennent? Ou bien ils sont victimes de ces situations qui peuvent arriver à la personne? Ou bien c'est comment?
Voilà, un exemple, Dieudonné. Vous pouvez donner un exemple.
Un exemple, par exemple, moi je me suis déplacé à cause de la guerre, je suis parti ailleurs et il me prend par exemple qu'il y a la paix maintenant, il me retourne dans le milieu où j'habitais auparavant. Et moi j'arrive dans le milieu mais la guerre n'a pas fini, je suis habité à la guerre, ou bien je meurs, ou bien je perds mes enfants, ou bien ma famille, je perdais ma famille comme ça, et ils seront victimes de cet accident, ou bien c'est comment?
Voilà, vous parlez des risques. Il y a des risques, on peut rentrer, il y a des risques de retrouver, peut-être que les combats peuvent reprendre encore, et là, on se sent en insécurité. Merci. D'abord, la question de Jean-Pierre Kayembe de Kinshasa, docteur Kapika, il dit, pourquoi ne pas travailler pour prévenir, il y a des causes à la base de ces déplacements massifs des populations, pourquoi vous ne travaillez pas dans le cadre de la prévention? Il veut parler de la prévention des conflits.
Oui, merci Jean-Pierre. Moi, je pense qu'il faut distinguer des choses. Nous sommes des organisations humanitaires et nous sommes aussi des organisations de développement. Tout ce que nous pouvons faire se limite au niveau de nos actions sur terre.
Je m'excuse, docteur. On va accueillir Marcel Bakanga qui nous appelle de Paris, depuis la France. Marcel, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Voilà. Je vais plus aborder la question que vous venez d'aborder par rapport au travail qui doit être fait en amont. Pour ces résolutions des conflits. Moi, je voudrais juste revenir sur le déplacer pour le faire revenir. Parce que la personne, déjà, en partant, il a tout perdu. Hein, les maisons, on voit, des fois, c'est des villages privés, c'est tout ça, quoi. Et après, la personne, vous allez lui demander de rentrer dans ces milieux-là, il n'a plus rien. Déjà, même là où il est, il n'a rien. comment voulez-vous que la personne revienne dans ce milieu-là, bien que c'est volontaire? On devait déjà donner la possibilité à la personne d'avoir une vie décente là où il est, pour qu'après, il ramène ce qu'il a déjà et qui lui permettra, par exemple, de construire une maison et puis de s'installer. Est-ce qu'il donne à ces personnes la facilité d'aller se réinstaller là où ils vont?
Oui.
Parce qu'ils sont chargés aussi du développement. Voilà.
Merci Marcel Bakanga. Depuis...
Ça, ma petite
Merci.
Question.
Merci Marcel depuis Paris, en France. Docteur Kapika.
Oui, donc on revient avec Jean-Pierre.
Jean-Pierre, oui.
Bon, pour dire que nous, en tant qu'organisme de développement, en tant qu'organisme humanitaire, il y a des actions que nous menons avant... En temps normal, là où se trouve la population.
Mmh.
Chaque population, on mène des actions de développement, on mène des actions de construction des écoles.
Des actions de prévention des conflits.
Tout à fait. C'est-à-dire ce sont des actions qui peuvent retenir les gens chez eux et qui peuvent facilement, même entre ethnies, se donner confiance et un attachement à son milieu. Hein, donc des actions de développement qu'on mène, des hôpitaux écrits, construites, construites, les écoles construites et des centres de santé, ça pousse au moins chacun à avoir une certaine appartenance à son milieu et d'y rester. Mais maintenant, quant au conflit, par exemple, quand... je ne sais pas, c'est parfois des conflits qui ne sont pas prévus par personne, et ça arrive, ça c'est autre chose. Mais quand on a déjà parlé, il a dit aussi des calamités. Nous là, c'est parce que bon, nous sommes dans des guerres récurrentes à l'Est, c'est pourquoi nous, il n'y a que l'esprit de la guerre qui nous revient en fait. Mais quand il y a une calamité, oui. Par exemple, ou quoi, dans un milieu, ça, il n'y a personne qui prévoit cela.
Quand il y a sécheresse,
quand il y a sécheresse, quand il y a sécheresse là, donc c'est ça dépasse tout le monde. Mais du moins, c'est pour retenir les gens dans leur milieu, pour prévenir des conflits, en tant qu'organisation humanitaire, nous menons des actions de développement dans les milieux en paix, dans les zones pacifiées. Nous menons des actions de développement, et c'est les seules actions qui peuvent encore faire réfléchir les gens à s'attacher à leur milieu, à y rester. Maintenant, il y a des aspects politiques et autres, ça, nous sommes vraiment politiques, et ça, nous ne pouvons pas...
Ça vous concerne pas. Docteur Freddy.
Oui, je voulais faire aussi comme commentaire. Notre ami doit savoir que nous ne travaillons pas dans un pays qui n'est pas gouverné. Le mandat de donner la paix à tout le monde relève du gouvernement du pays. Et c'est un problème du gouvernement. Quand il y a une bonne cohésion nationale, quand il y a une bonne entente parmi les populations, en principe, on n'observe pas des déplacements massifs de la population. C'est quand il y a un problème que cela arrive. En temps normal, ça relève du gouvernement. Et les ONG que nous sommes, nous faisons des actions de développement à des populations qui sont calmes, qui habitent chez elles. Donc, voilà. Maintenant, par exemple, compte tenu de ce qui se passe à l'Est, le gouvernement organise une concertation nationale. Ça entre dans ce cadre-là pour qu'il y ait une cohésion, pour que les populations vivent en paix. Voilà. Donc, le premier mandat est du ressort du gouvernement. Les ONG, les organismes partenaires des Nations Unies ne viennent que pour aider le gouvernement. Il est tout à fait normal qu'une ONG puisse aller actuellement dans un village, par exemple, au Bandundu. Il y a la paix, il n'y a rien. Ils viennent, ils vous disent que non, vous, telle tribu, moi, je suis venu pour faire la prévention pour que demain, ils vont vous regarder de travers. Nous vivons depuis très longtemps, depuis des siècles, il n'y a jamais de problème qui vous dit que vous, demain, nous allons avoir un problème. Donc, on ne peut pas...
Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir.
Qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas faire.
Alors, non. Dieudonné de Kinshasa parle de la... Vous arrivez à les convaincre qu'il rentre dans son milieu d'origine. Il arrive là-bas, il y a encore l'insécurité, il perd ses enfants, il perd ses biens. Il dit, alors, comment gérer ces risques-là?
Oui, si Dieudonné a bien, très bien suivi, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit, avant d'organiser le retour, on fait des évaluations. Il y a le gouvernement qui est impliqué, les ACR, s'il s'agit d'un retour de rapatriés, tout comme des déplacés internes, et la population elle-même, la société civile, tout le monde est impliqué. On fait des évaluations. On se rend compte que la guerre réellement a pris fin. Et on organise les retours. Et avant d'organiser les retours, on fait ce qu'on a dit. Il y a des conditions. Les gens, s'ils ont perdu des maisons, on construit des maisons pour eux, pour les vulnérables. Les personnes fortes, on leur donne des kits de construction qui comprend des sticks, de clous, de portes et de fenêtres. Eux-mêmes se construisent. Et en dehors de ça, on leur donne aussi des matériels aratoires.
Un auditeur nous a écrit depuis Walungu, qui vous dit: que faire d'un rapatrié qui parle une langue étrangère, qui ne parvient pas à indiquer son ancien domicile et qui n'est pas reconnu par la population locale? C'est Joseph de Walungu.
Bon, ça, ce sont des problèmes particuliers et très pertinents. Il faut qu'on fasse des études, qu'on l'identifie, s'il est réellement déplacé, s'il est parti de ce milieu et s'il rentre de là. Parce qu'il y a des opportunistes aussi. Surtout à l'Est, où il peut être un étranger et il en profite, il vient, il peut s'insérer dans une communauté de bien précise. C'est à la communauté locale d'être beaucoup plus vigilante.
Voilà, docteur Kafika, lorsque c'est retourné sans bien, lorsqu'il est retourné, ils n'ont plus de biens, qu'est-ce qui ressort pour intégrer leur milieu? C'est la question des Francs à Lubumbashi. Il y a également Marcel de Paris qui a dit il faut laisser la personne là où elle était avant travailler, dès qu'elle aura des moyens, maintenant elle peut rentrer.
Non, je pense qu'il faut que les choses soient claires pour les interventions. Il y a les humanitaires souvent font des interventions d'urgence. Les interventions d'urgence, c'est quand c'est encore chaud, les gens ont fui, ils sont quelque part, ils ont perdu casserole, couverture, maison, tout ça, et ils viennent avec ce que nous appelons des NFI, donc des non-vivres, qui sont essentiellement, on peut donner des bâches, des casseroles, ce qu'on appelle des kitchen sets, on peut donner des jerrycans, des bidons, tout ça, un peu juste pour leur permettre de vivre là où il est. Et il y a le PAM qui intervient avec des vivres, il peut distribuer des vivres pour leur permettre de vivre un peu là où ils sont. Les gens doivent retenir que actuellement, même tous ces humanitaires, l'idée, c'est pas beaucoup plus d'aider les gens pour dire d'une façon, parce qu'ils sont nombreux chacun, avec des moyens conséquents pour qu'ils puissent s'installer. C'est beaucoup plus une réintégration communautaire. Les gens préfèrent, là où vous êtes dans les milieux, arranger des écoles, arranger un hôpital, arranger des centres de santé, pour que cela bénéficie à tout le monde, arranger des routes si c'est possible.
Est-ce que vous leur donnez de l'argent?
Oui et non.
Pour peut-être commencer une activité génératrice de revenus, c'est prévu?
Oui, c'est pourquoi j'ai dit oui et non.
Oui et non.
Oui, dans le, il y a les cas où on intervient dans les AGR, des activités génératrices de revenus, comme vous dites. On donne à bas d'un petit projet, pas nécessairement l'argent. Monsieur peut dire, moi, je vais vendre, je ne sais pas moi, ça je ne peux pas citer parce que c'est internet, j'allais dire la cigarette, il dit, je peux vendre, c'est pas moi, un petit commerce, je vais vendre des cahiers, je vais vendre des cigarettes. On achète les cahiers, on lui apporte et il vend les cahiers. Au lieu de lui donner l'argent.
De lui donner l'argent en liquide.
Mais alors, il y a, par contre, je ne vous coupe pas la parole, c'est qu'on appelle des cash vouchers, des cash grants, c'est-à-dire des gens qui rentrent, au lieu de transporter à des grandes distances, de vivre ou surtout dans des zones où les routes n'existent pas, alors on accepte de donner l'équivalent en argent.
D'accord. On va terminer avec la question d'Aline Aboundou. J'ai suivi, les invités sont des médecins. Est-ce qu'ils apportent aussi pour le compte de l'assistance, est-ce qu'ils vous apportez aussi des soins, des santé, des soins aux malades, docteur Freddy?
Oui, d'abord que Madame Aline doit savoir que nous n'intervenons pas que seuls. Aujourd'hui, nous parlons de notre organisation, mais ce sont des opérations qui se font en groupe. Les organismes du système des Nations Unies, tels que l'ACR et le PAM, ont souvent plusieurs partenaires. Dans les cas d'espèce, il y a des partenaires qui sont spécialisés pour la prise en charge médicale.
Merci. Docteur Freddy Mbakata Poutou, directeur général de l'ONG ADES, Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, une ONG partenaire à OACR, et docteur Kafika Augustin, chef de projet à ADES, nous vous disons merci.
Merci
et
beaucoup.
À la prochaine.
Merci beaucoup.